Bonjour à tous. Je me présente tout d'abord, je suis en effet Christian Format. Je viens de l'église évangélique libre d'Avignon, qui m'a particulièrement chargé de vous transmettre ses fraternelles salutations, tout en particulier son pasteur, Thierry Bulan, qui m'a dit surtout tu les embrasses bien pour moi. Voilà, donc recevez les fraternelles salutations de l'église d'Avignon. Et je vous transmets aussi les salutations de la commission synodale, qui vous a accompagné, vous, église de Cannes, tout au long de cette démarche entre le départ de Pierre et puis l'arrivée de Jean-François, et qui se réjouit avec vous ce matin de ce temps d'installation du pasteur que vous avez choisi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai déjà envie de dire merci au Seigneur pour ce que nous avons vécu. Et il me semble que tout ce que nous avons entendu pourrait suffire à des prédications. Mais non, vous n'allez pas y couper quand même. On ne va pas passer directement au temps d'installation. Et ouais, j'étais frappé aussi par l'unité de l'esprit entre ce que nous a parlé Marc, ce texte de Matthieu 25, que j'avais aussi choisi d'ailleurs, je ne sais pas si je ne vais pas le citer d'ailleurs à un moment donné, et puis cette minute des enfants sur « ne pas se fier aux apparences ». Puis Marc a commencé aussi en disant que parler du berger du troupeau, ça pouvait paraître un peu gonflé le jour d'une installation, mais moi je vais vous parler aussi d'un thème qui paraît assez gonflé. C'est Jésus roi, et puisque Jésus est roi, nous sommes ses serviteurs. Alors ça aussi, alors est-ce que serviteur c'est uniquement dédié au pasteur? Est-ce que Jésus est roi? Nous l'avons chanté, que ton règne vienne. C'est de tout ça que nous allons parler. Et quand je dis que ça peut être choquant, c'est parce qu'il y a quelques semaines, dans l'église d'Avignon, nous avions eu la joie d'avoir une présentation d'enfants. Et puis, comme souvent à cette occasion, les parents avaient invité des collègues de travail. Ils étaient une bonne dizaine, peut-être même un peu plus. Et puis donc, la semaine suivante, j'ai demandé au papa, « Alors, comment ça s'est passé avec tes collègues ?» Il m'a dit, « Oh, ils ont été choqués. » Parce que le thème, c'était justement « Jésus est roi ». Et puis, il leur avait dit, « Mais si Jésus est votre roi, alors vous êtes des esclaves. » J'ai dit, « Ben, c'est vrai que ça peut paraître choquant, mais nous, au fond de nous, on sait que c'est ce qu'il y a de plus beau. » Ce sera le thème de ce matin. Je vous invite à écouter maintenant la parole. Un texte que j'ai pris dans la version la Bible en français courant, histoire de ne pas s'endormir sur des refrains qu'on a l'habitude d'entendre. Jésus dit encore une parabole pour ceux qui venaient d'entendre ces paroles. Il était en effet près de Jérusalem, c'était juste après la rencontre avec Zachée. Il était en effet près de Jérusalem et l'on pensait que le royaume de Dieu allait se manifester d'un instant à l'autre. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble se rendit dans un pays éloigné pour y être nommé roi. Il devait revenir ensuite. Avant de partir, il appela 10 de ses serviteurs, le remit à chacun une pièce d'or de grande valeur et leur dit « Faites des affaires avec cet argent jusqu'à mon retour. » Mais les gens de son pays le haïssaient. Ils envoyèrent une délégation derrière lui pour dire « Nous ne voulons pas de lui comme roi. » Il fut pourtant nommé roi et il revint dans son pays. Il fit alors appeler les serviteurs auxquels il avait remis l'argent pour savoir ce qu'ils avaient gagné. Le premier se présenta et dit « Maître, j'ai gagné 10 pièces d'or avec celles que tu m'as données. » Le roi lui dit « C'est bien bon serviteur. » Puisque tu as été fidèle dans de petites choses, je te nomme gouverneur de 10 villes. Le deuxième serviteur vint et dit, Maître, j'ai gagné 5 pièces d'or avec celles que tu m'as données. Le roi dit à celui-là, toi, je te nomme gouverneur de 5 villes. Un autre serviteur vint et dit, Maître, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardée, cachée dans un mouchoir. Car j'avais peur de toi, car tu es un homme dur. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui dit, mauvais serviteur, je vais te juger sur tes propres paroles. Tu savais que je suis un homme dur et que je prends ce que je n'ai pas déposé et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? À mon retour, j'aurais pu le retirer avec des intérêts. Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui cette pièce d'or et remettez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, maître, il a déjà 10 pièces. Je vous l'affirme, répondit-il. À celui qui a quelque chose, l'on donnera davantage, tandis qu'à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Oui, cette parabole aurait de quoi nous surprendre, nous choquer peut-être même. Mais une parabole, c'est avant tout une image qui illustre et qui souligne une idée principale. Alors, si nous avouons que ce texte a quelque chose de dérangeant et qui nous choque quelque peu, comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de paraboles dans le royaume de Dieu, souvent il faut les lire et les décortiquer pour les comprendre. L'intendant infidèle qui est loué, les 2 jeunes filles, il y en a 5 sages, 5 folles et insensées. Les 5 sages avaient refusé pourtant de prêter leur huile parce qu'elles étaient vraiment sages. Des ouvriers de la dernière heure, l'ouvrier qui a travaillé qu'une heure, qui gagne le même salaire que celui qui a travaillé toute la journée. Ouais, toutes ces paraboles sur le royaume de Dieu nous interrogent, nous bouleversent nos valeurs, un petit peu comme l'histoire de la minute des enfants. Je crois qu'il ne faut pas les examiner avec nos lunettes habituelles. Il faut accepter de nous laisser bousculer, accepter que nos raisonnements habituels, nos idées toutes faites, ne limitent pas une révélation qui nous dépassera toujours. Alors, les principaux personnages de ce texte que nous venons de lire sont cet homme de famille noble et qui va être fait roi. Et puis, il y a les gens du pays qui n'aiment pas cet homme et qui voudraient empêcher à tout prix qu'il soit roi. Et puis, il y a les serviteurs. Et cette parabole présente encore des contrastes marqués, on l'a dit, des dualités prononcées entre cette opposition, entre ceux qui n'aiment pas le futur roi et puis ses amis, ses serviteurs qui, eux, veulent le faire roi. Et puis parmi les serviteurs, il y a encore une opposition entre les bons serviteurs et celui qui n'a pas su obéir. N'est-il pas encore aujourd'hui de ces oppositions entre le monde dans lequel Dieu règne spirituellement et puis le monde dans lequel nous vivons qui est plein d'hostilité ? En nous-mêmes, n'y a-t-il pas encore des fois des combats, des oppositions ? Et puis, il faut noter que dans l'évangile de Luc, ce texte se situe, je le dis, juste après Zachée, mais surtout juste immédiatement même avant le moment où Jésus va entrer à Jérusalem et où certains vont l'accueillir comme un roi, mais où d'autres vont le condamner à mort, le couronnant d'une couronne d'épines. Quel contraste là aussi. Pourtant, il faut bien le dire haut et fort, Jésus est roi. Le texte de ce matin l'évoque à travers cette parabole, malgré l'hostilité et l'acharnement de ses détracteurs, il fut pourtant nommé roi et il revint dans son pays. La Bible tout entière l'affirme, Dieu est souverain et Jésus est roi. Mais Jésus ne veut pas que nous nous trompions sur ce que signifie son titre de roi. Et c'est pour cela que sur la terre il a toujours refusé toute confusion. Il s'est même enfui lorsque la foule, après la multiplication des pains alors qu'il avait nourri 5000 hommes, voulaient l'amener dans leur ville pour le faire roi. C'est l'évangéliste Jean, entre autres, qui nous le rappelle au chapitre 6. Hein? Ou bien encore lorsqu'il était devant le gouverneur Pilate et que celui-ci lui demande « Es-tu roi ?» C'est toi qui le dis. Mais Jésus lui dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et même si son règne n'est pas encore complètement établi, Jésus est roi. Et il convient que nous attardions encore nos regards sur Jésus roi afin de savoir comment le servir, parce que c'est cela qui va en effet déterminer notre sens du service. Alors on peut admirer la souveraineté, la puissance du roi présent dès la création et par qui tout a été créé. Et cela va nous aider sans doute face au découragement lorsque le défi à relever pour le servir nous semble impossible. Savoir que nous sommes serviteurs du roi, tout puissant par qui tout a été créé. Est-ce que nous faisons assez souvent appel à lui, à sa puissance dans notre service? Cela devrait nous aider. Savoir que lorsque Jésus roi viendra établir pleinement son règne, c'est l'image en bas à droite, il nous appellera par notre nom nouveau. Il nous remerciera pour notre service. Il nous invitera à entrer dans son repos, dans sa joie. Cela va nous remplir d'espérance et de zèle pour le service. Mais poser nos regards sur ce Jésus central, le roi serviteur, le roi souffrant, et humilié pour nous libérer, ça va nous remplir d'amour pour lui et pour les autres. Ça va nous inciter à marcher à sa suite, à partager son amour. Et c'est cela, le servir réellement. L'amour de Jésus pour nous constitue à la fois le meilleur carburant pour le votre service est le meilleur exemple à suivre. Parce qu'en effet, nous sommes toutes et tous appelés à être serviteurs du roi Jésus. C'est bon la diapo ? Toutes et tous appelés à être serviteurs du roi Jésus. Souvent l'expression « c'est un serviteur de Dieu », je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'étais enfant, ça s'adressait, quand on disait « ah, celui-là c'est un serviteur de Dieu », que ce soit un grand missionnaire qui revenait de loin, ou alors un évangéliste fantastique qui réunissait sous des chapiteaux des milliers de personnes, ou alors un pasteur avec des prédications. Alors ça, c'était un serviteur de Dieu. Non, être serviteur de Dieu, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un emploi. Ce n'est pas non plus une activité à temps partiel pour nous, le week-end seulement, peut-être quelquefois dans des réunions de louanges ou de prières. Être serviteur de Jésus, c'est notre identité, une identité nouvelle qu'il nous a acquise. Alors bien sûr, il y a plusieurs manières de décliner cette identité, il y a plusieurs services pratiques concrets à exercer. Mais être serviteur, c'est avant tout un état d'esprit qui nous habite à 100%. C'est vouloir que tout ce que nous faisons, et quoi que nous fassions, nous le faisons pour le Seigneur. Et c'est un immense privilège de travailler avec et pour le Seigneur. Fermons les yeux un instant et imaginons cette grâce qu'il nous fait. Le Dieu Tout-Puissant nous appelle à coopérer avec lui. Quand je dis coopérer, j'ai cette image d'un grand chirurgien qui opère pour sauver des vies. Et puis il a à côté de lui un assistant, une assistante, infirmière, infirmière spécialisée en chirurgie. Et dans ces opérations, vous savez, le chirurgien sans assistante, il perdrait du temps, etc. Et il fait l'honneur à son assistant d'opérer avec lui. Et là, quand ce duo fonctionne bien, l'instrument chirurgical arrive avant même que le chirurgien demande lequel c'est. Il y a une telle unité que le chirurgien et son infirmier coopèrent et ramènent des personnes à la vie ainsi. Est-ce qu'il en est de même pour nous ? Est-ce que nous voulons être les yeux fixés sur ce grand chirurgien, ce grand docteur qui appelle à la vie tellement de personnes et coopérer avec lui ? Oui, notre service naît de l'observation assidue et de l'écoute attentive du Maître. Le Seigneur Jésus nous le dit dans une autre parabole d'ailleurs, mais avec la même conclusion. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas. On notera même le peu qui pourrait lui rester. Écoutez sans mettre en pratique, voilà ce que dénonce Jésus. Penser que l'on n'a aucune disposition pour servir Jésus, n'est-ce pas penser et agir comme ce mauvais serviteur qui reprochait à son maître de vouloir récolter sans avoir semé ? Dieu aurait-il oublié de donner à l'un d'entre nous les capacités utiles au service qu'il attend de nous ? Non. Exprimons à Dieu la reconnaissance pour ce qu'il nous a donné comme capacité, comme talent, et soyons chacun, chacune, ce que Jésus a voulu que nous soyons en nous mettant à son service. En effet, mettre en pratique la parole de Jésus, c'est cela le servir, c'est cela devenir son disciple. Et Jésus nous fait la grâce alors de nous appeler même ses frères. Cette unité avec lui n'est pas que pour les pasteurs, les missionnaires, tout comme elle n'était pas exclusivement réservée aux premiers disciples. Rappelons-nous encore ces magnifiques paroles de Jésus dans la prière sacerdotale. Lorsqu'il prie avec ses 12 disciples, il dit « Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je prie, mais pour tous ceux qui par leurs paroles mettront leur foi en moi, afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Oui, Jésus nous rappelle ce matin que nous sommes tous, toutes et tous, des serviteurs utiles. Serviteurs utiles, souvent on pense aux dons, aux compétences. Et là aussi, des fois, on voudrait évaluer avec notre échelle de valeur à nous. Lui a plus tel don, plus telle compétence. Oui, c'est une grâce, mais ça veut dire quoi, plus ou moins ? Qui est le plus fort, hein, entre le petit scarabée bousier ou l'éléphant ? Ça veut dire quoi, plus ou moins, quand on est déjà dans le royaume spirituel de Jésus ? Dieu donne avec sagesse, avec une sagesse qui est différente d'une comptabilité numérique matérielle. Et s'il donne en récompense la gestion de 10 villes ou de 5, c'est la même quantité de bonheur qu'il donne. Et s'il nous confie des petites tâches ou des grandes tâches, c'est la même quantité, qualité de service qu'il attend de nous. Avec lui, pas de surenchère inflationniste, pas de comparaison individuelle. Vous savez, dans les entreprises, souvent on fait la pique, la performance individuelle comparée. Quel scandale. On compare les individus sur des performances. Pas d'inflation galopante, toujours plus. Avec Dieu, on ne craint pas le burn-out. Il nous donne à fonction de ce qu'il attend de nous. Avec Dieu, chacun est utile à la place qu'il occupe et chacun est précieux dans son service. Utile dans l'église locale, il y a combien de services à rendre dans une église, du plus matériel, celui qu'on ne voit pas mais qui est tellement précieux. Vous nous avez accueillis ce matin dans une église qui sent bon, qui est belle, qui est fleurie à l'entrée. C'est un service précieux, c'est un témoignage de la beauté de Jésus. Utile dans la vie sociale, être porteur de justice. Utile dans la vie professionnelle, là aussi, être une lumière qui brille. Dans la vie familiale, l'unité, l'amour, la paix. Utile par la prière. Pas de complexe d'infériorité, pas d'orgueil. Parce que Jésus nous a libérés de cela. Il renverse nos échelles de la valeur, on l'a déjà dit. Il nous rappelle même que quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. De la même façon, le Fils de l'homme n'est pas venu, nous dit Jésus, pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Oui, nous sommes tous des serviteurs utiles et libérés. Le terme de serviteur, je l'ai dit en introduction, peut choquer parce qu'effectivement, étymologiquement, c'est le même que le mot esclave. Et cela choque à juste titre. Lorsqu'on connaît cette période honteuse et tous les scandales, toute l'humiliation, la honte sur l'humanité liée à l'esclavage. Mais pourtant, si nous y réfléchissons, n'y a-t-il pas bien des choses qui rendent esclaves aujourd'hui encore nos contemporains et nous-mêmes ? C'est de cet esclavage-là que Jésus veut nous libérer. Il nous le dit encore une fois, personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est bien une question de choix. Jésus nous a libérés. S'il nous appelle ses serviteurs, nous sommes libres d'être ses serviteurs. C'est nous qui choisissons avec ses dons de comment. Mais si nous choisissons de ne pas être libérés par Jésus, alors nous restons esclaves de tout ce qui a triomphé de nous. De quoi avons-nous encore besoin d'être libérés ce matin pour être un bon et fidèle serviteur de Jésus ? Est-ce de la peur de mal faire, comme ce serviteur qui connaissait si peu son maître qu'il a eu peur et qui a préféré cacher l'argent, le talent ? Demandons au Seigneur de nous libérer et il le fera, parce que nous sommes des serviteurs aimés. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis, nous dit Jésus, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. S'engager dans un service à l'Église et soulager ainsi un frère, une sœur qui est surchargée, n'est-ce pas de l'amour ? Aller rendre visite à un frère, une sœur isolée, fatiguée, malade, n'est-ce pas de l'amour ? Manifester sa soif de justice sociale, tout en étant ouvrier de paix dans la vie professionnelle et sociale, n'est-ce pas de l'amour ? Organiser avec les jeunes et puis toutes les générations de l'Église une après-midi, un match de foot ou des tournois de jeux de société, un match de rugby, n'est-ce pas de l'amour ? Intercéder avec ferveur par la prière, organiser et participer à des chaînes de prière, n'est-ce pas de l'amour ? Gérer avec sagesse ses finances en veillant à un juste équilibre entre dans la répartition de nos finances entre l'utilisation des biens matériels, qu'est-ce que j'en fais? N'est-ce pas de l'amour? Oui, Jésus nous a aimés le premier et il est mort pour que nous ayons accès à cette vie nouvelle, débordante d'amour. Alors oui, et c'est l'apôtre Paul cette fois-ci qui nous la rappelle, si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, et il y a là du nouveau parce que tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. L'ambassadeur, c'est le représentant d'un pays, c'est le représentant officiel d'un pays à l'étranger. Et savez-vous que, par exemple, à l'intérieur de l'ambassade de France dans un pays étranger, eh bien, vous êtes en France. Avec le drapeau à l'entrée, bleu, blanc, rouge, un intérieur qui doit donner la meilleure image possible de la France, de ce qu'elle est vraiment. Et l'ambassade est même régie par les mêmes lois qu'en France. Eh bien, il en est de même pour le royaume de Dieu. Si nous sommes ambassadeurs de ce royaume, alors là où nous sommes... J'ai oublié ma quatrième page, mais c'est pas grave, je vais... Alors, là où nous sommes, là est le royaume. Si nous sommes ambassadeurs, c'est-à-dire qu'autour de nous, c'est l'ambassade du Christ. Alors, là où j'habite, ou bien même dans mon bureau, là où je suis, c'est Dieu qui règne. Et si quelqu'un entre, il doit le voir. C'est cela notre service d'ambassadeur. Ce service-là ne sera pas toujours facile. Là aussi, il y a des difficultés matérielles que nous connaissons. Faire le ménage, j'en ai parlé tout à l'heure, à l'église, eh bien, ça fatigue, ça peut faire mal aux reins, ça peut parfois nous décourager. Organiser un week-end avec les ados et puis passer la nuit blanche parce qu'eux, ils n'ont jamais trop envie de dormir. Et puis le matin, ils n'ont jamais trop envie de se réveiller. Et puis se dire, mince, tout ce que j'ai préparé pour le week-end, c'est déjà bien râpé. Eh bien, des fois, ça peut contrarier. On peut dire, oh Seigneur, t'es sûr que c'est là que tu me veux, j'ai plus l'âge pour ça, j'arrive plus à suivre, quoi. Donc oui, ce ne sera pas toujours facile de manière concrète. Et puis, ce ne sera peut-être pas toujours facile non plus par rapport à l'hostilité. Hein, parce que tout comme dans le texte de la parabole, il y a dans notre vie aussi ceux qui ne veulent pas que Jésus soit roi. Et cela nous créera sans doute des difficultés. Cette hostilité, pourtant, ne doit pas nuire à notre zèle pour servir Jésus. Il nous a prévenus, hein, si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi je vous ai dite, l'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus ne nous a rien caché, que ce soit de nos luttes intérieures ou des luttes extérieures. Il nous encourage à veiller, à garder confiance. Et lorsqu'il nous annonce des temps difficiles, il le fait afin que lorsque les difficultés arrivent, notre cœur ne se trouble pas. Que nous ne perdions pas notre joie et notre courage et que nous gardions l'assurance qu'il est souverain et que ce qu'il a promis arrivera. Il viendra établir définitivement son règne. Pardon, c'était bien ça la dernière. Il viendra établir définitivement son règne. Alors, oui, heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, nous dit Jésus, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Alors que ce message, ce matin, nous encourage dans notre service, que nous nous émerveillons toujours en considérant le privilège que Dieu nous fait. En nous appelant à le servir. Dieu aurait pu se passer de nous pour réaliser sa volonté, mais il a voulu qu'elle s'exprime à travers chacun de nous, à travers son Église. Alors que l'Église tout entière soit animée par le zèle et l'amour, et qu'autour de nous, on puisse dire « Oui, le royaume de Dieu s'est approché ». Par notre service, participons ainsi à la prière que nous a enseignée Jésus, « Que ton règne vienne ». Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen.